Bonjour et bienvenue dans Kixa. Aujourd'hui, on réaccueille Morgane qui vient de temps en temps faire des quiz avec moi et que vous connaissez déjà. Salut Morgane, tu vas bien ?
Ouais, salut Letty, salut Radio Galère.
Et en plus, on a Jus. Salut Jus.
Salut.
Alors Jus, vous l'avez entendu aussi dans nos chroniques ciné, mais cette fois-ci, il s'invite sur nos chroniques quiz. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les faits étonnants, on va dire, de façon très large. Et donc Morgane, je te laisse commencer par ce que tu nous as préparé, le premier quiz. Qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Ma petite habitude, moi j'aime bien les petites trivia avec des petits faits pour briller en société. Cette fois-ci, pour changer, on va aller sur des faits musicaux. Alors, les deux premiers qu'on avait fait, c'était sur le cinéma. Et on va parler particulièrement des riders. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est un rider, en France, on va parler plutôt de fiches techniques. C'est un document de plusieurs pages qui est rédigé par un groupe ou un artiste et son manager et qui est transmis aux tourneurs lors de tournées, justement, pendant leur spectacle. Et bien sûr, souvent, plus les musiciens sont connus et plus il est détaillé, et parfois avec des petits détails assez insolites, des requêtes. En fait, ça permet d'anticiper les besoins des artistes. Tout ce qui est technique, son, lumière, mais aussi en dehors de la scène, ce qui va se trouver en loge ou pas, d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour expliquer. Donc là, on va avoir des petits faits insolites sur les riders particuliers. Alors, première question, début tranquille. En moyenne, à votre avis, ça coûte combien d'argent une production en moyenne par rider ? Combien ils dépensent en moyenne par rider en production ?
C'est difficile à dire. En plus,
une fourchette à peu près.
On parle des artistes qui sont successful, quoi, qui ont du succès.
On parle de la moyenne, donc d'aussi bien des gros artistes que des groupes un peu moins connus. Bah, la réponse que j'ai, c'est une fourchette aussi. Hein.
Ouais, ok. Moi, je dirais, pour des artistes émergents, en général, ça peut ne pas dépasser 100 euros.
Pour des très très gros artistes, je pense qu'on peut monter à 2000 euros, hein. 2000, 4000 balles, mais bon, ça me paraît quand même beaucoup, 4000 balles pour une soirée avec pour de l'alcool et des jus de fruits en loge, quoi.
En penses quoi, toi ?
Moi, je sais pas, ouais, j'avoue. Est-ce que c'est un truc qui se calcule auto-horaire ?
Non, je crois qu'il a... C'est le calcul, c'est un directeur de festival qui a donné cette fourchette-là. Et je crois qu'il précisait dans sa réponse que c'était... Tout ce qui était un peu acheté pour les artistes, donc tout ce qui est boisson, comme tu as dit, Letty.
Oui, voilà, il y a des artistes qui exigent d'avoir une bouteille de soda plus une bouteille d'un alcool en particulier. Donc,
ça peut être plus extravagant, mais lui, il parlait plutôt d'achat, de ce qu'ils ont besoin d'acheter pour les artistes.
Ok. Effectivement, oui, je pense que pour les émergents, ça peut aller pas très haut, genre 100 euros, 200 euros, peut-être. Genre des bonbons, des trucs.
Ouais, c'est ça.
Bah... Comme ça. Mais après, les gros, je sais que des fois, ils ont des listes.
Ouais.
Ils te donnent des listes de trucs. Moi, quand j'arrive, il me faut ça. Et là, ça peut aller très haut. Si d'un coup, ils te disent qu'ils veulent 4 tonnes de cocaïne ou je sais pas. Non, mais ça peut monter à plus de 1000 euros, peut-être.
Alors, la moyenne que j'ai trouvée, c'est entre 150 et 300 euros.
Ah, ok. Voilà.
À mon avis, les stars qui ont vraiment des grosses exigences à plusieurs milliers d'euros, déjà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ce genre d'exigences. Mmh. Et je pense que si on fait une moyenne avec tous les autres artistes, puis on dit les gros artistes, hein, mais dans ce que j'ai lu pas mal de riders, d'artistes, il y a des gros artistes, c'est très surprenant, qui demandent vraiment pas grand-chose, quoi. Je crois que c'est Sting, il veut de l'eau et du coca, et c'est précisé qu'ils sont friands de découvrir des spécialités locales, quoi. voilà, quoi, c'est pas hyper...
On est peut-être allé un peu loin.
on est peut-être allé... Parce qu'aussi, j'ai été choquée, j'avais une copine qui travaille justement dans des festivals en loge, typiquement, et je sais plus pour quels grands artistes et gros festivals elle avait bossé, mais en gros, c'était un gars qui avait demandé genre des sandwichs pour toute sa famille, donc pour tous ces gens. Et du coup, il y avait, pour 20 sandwichs, 30 sandwichs et tout. Et en fait, personne n'a mangé. Et donc, ils se sont retrouvés avec de 20, 30 sandwichs sur le dos, quoi. Mais tu te dis, waouh, tu viens faire un concert, une soirée, tu commandes 20 sandwichs, c'est beaucoup, quoi.
C'est de la démesure, effectivement. Alors, deuxième question. Donc, il y a une question à choix. Parmi la liste d'exigences que je vais énumérer, Il faut trouver celle qui figure bien sur le rider d'Aretha Franklin.
Ouh.
Ok, donc je vais lire une liste. Il faut que vous me disiez ce que Aretha demande vraiment. Alors, c'est une réponse à choix multiple. A. La chambre d'hôtel où elle va résider ne doit pas se trouver en dessous du 5e étage. B. Une avance de 25 000 dollars en cash le soir du concert doit être donnée par les promoteurs. C. Elle demande aux promoteurs 50 entrées gratuites qu'elle distribuera à qui elle veut. Et dernière proposition, D. Toutes les climatisations de sa loge doivent être éteintes. Donc je récapépète. A. La chambre d'hôtel, pas en dessous du 5e. Une avance de 25 000 en cash le soir même. 50 entrées gratuites pour qui elle veut. Et toutes les clims éteintes.
Moi, j'aurais tendance à parler des 50 invitations. Aussi parce que Aretha Franklin et climatisation, je crois qu'en France, elles sont arrivées plus tard à la démocratisation des climatisations, mais ça me paraît anachronique un peu. Mais après, c'est peut-être moi qui manque de culture G aussi. Mais du coup, je dirais 50 invitations. Et toi, Jules ?
Toutes les propositions sont un peu probables, donc c'est pas facile. 50 invitations, ouais. Je sais pas, en même temps, 25 000 dollars, je me dis...
En cash.
Je sais que c'était un peu la queen, quoi. Elle arrivait... il fallait que... Je sais pas, ça m'étonnerait pas non plus, les 25 000 dollars.
Ok, donc Jude dit 25 000 dollars en cash et moi 50 invitations.
Ouais, et la réponse, c'est qu'en fait, elles sont toutes vraies. Elles demandent notamment tout ça. Et la clim, alors j'ai essayé de chercher pour le 5e étage, parce que ça m'a vraiment intriguée. Je n'ai pas trouvé pourquoi elle voulait pas être en dessous du 5e étage. Je pense qu'elle a envie d'avoir une vue. Enfin, à mon avis, ça doit être quelque chose de genre.
À la limite, si tu as envie d'avoir une vue, tu as plutôt tendance à dire « je veux une chambre qui soit au-delà du 5e étage ». J'ai l'impression que c'est une vieille... Moi, j'irais plutôt vers une vieille superstition.
Peut-être. Tu vois, en tout cas, j'ai rien trouvé. Et pour la clim, c'est une demande qui est assez récurrente. Et Whitney Houston, elle demande la même chose. C'est pour préserver la voix.
Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est un délire qu'on envisage peu. Mais moi, je le vois avec les chanteurs. On a souvent cette idée que les artistes, notamment les chanteurs, sont des gens hyper rebelles, hyper drogués, hyper fêtards, parce qu'on a été marqué par l'histoire du punk, notamment, du rock et du punk. Mais en fait, moi, tous mes potes qui font du rap, qui sont chanteurs, c'est des carmélites, quoi. Ils sont là, ils font du sport, ils font attention à leur rythme de sommeil, ils portent des écharpes tout le temps, parce qu'en fait... Leur voix, c'est leur outil, quoi. Donc, en vrai, ouais. C'est, pour le coup, je trouve que c'est la demande qui est peut-être la plus logique, quoi.
Alors, troisième question. Donc, demander des places gratuites, hein, comme on l'a vu dans la question précédente, ça paraît être une demande qui est plutôt légitime pour les artistes.
Tout à fait.
Et cependant, la chanteuse Adèle, quand elle donne des places gratuites, ou qu'il y a des gens, hein, tout simplement, qui ont des places gratuites pour ses concerts, elle leur demande quelque chose en retour. C'est quoi, à votre avis ?
Oh, Adèle. En plus, Adèle, elle est connue pour être particulièrement sympathique et très consciente de ce que ça veut dire d'être fan, en fait. Je pense qu'elle aussi, elle est fan de gens. Qu'est-ce qu'elle leur demande en retour ? Qu'est-ce qu'elle leur demande ? Est-ce que c'est quelque chose, genre que... Est-ce que c'est un objet physique ? Ou est-ce... Non, ok, donc c'est pas genre « ramène-moi une pâtisserie que tu m'aurais cuisinée par amour », quoi.
Non.
Qu'est-ce que ça peut être ? Je l'imagine pas du tout être en mode « vas-y, aide-moi à faire ma promo et ma com, donc fais un selfie ». Je pense pas qu'elle a besoin de ça, quoi. Je lui dis... Ah là, je sais. Ok, parce que moi, ma chanson préférée de Adèle, c'est « Stranger by Nature », qui commence en disant « je vais aller au cimetière de mes amours, déposer des fleurs, en gros, pour tous mes ex, parce que personne ne peut savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être toi et moi ». En gros, elle a rencontré l'homme de sa vie. Et du coup, je dirais qu'il faudrait lui ramener... Ah non, t'as dit, j'aurais dit lui ramener une fleur. Mais non, tu m'as dit, c'est pas un objet physique. Ah là là.
Jus, t'as des idées ?
Bah, moi, j'allais dire un truc plus par rapport à la promo, mais apparemment non, du coup.
Non.
En même temps, Adèle, elle a toute une équipe de marketeux derrière elle. Je pense que c'est vraiment un truc... Enfin, de ce que je reçois de la personnalité d'Adèle, je pense que c'est vraiment un truc insolite qui lui plaît à elle.
Alors, c'est difficile. Je pense pas que vous avez trouvé, mais Letty, tu es vraiment sur la très, très bonne piste. En fait, son rider, il stipule que tous les invités qui reçoivent des billets gratuits, ils sont invités à une contribution caritative minimale de $20 quand ils vont aller récupérer leur billet à la billetterie. Et ça concerne tout le monde, que ce soit les organisateurs de la salle, le personnel qui a des places gratuites pour venir la voir, les amis à elle qu'elle invite, à qui elle donne des billets gratuits. Il n'y a pas d'exception. Et en fait, l'argent qui est collecté, il est destiné à SENS, qui est une organisation caritative qui est au Royaume-Uni et qui se consacre à soutenir toute personne touchée par la mort d'un bébé. Oh. Donc tu vois, il y a de ce que tu disais un peu, de elle pense vachement à son public et elle est assez dans le don. Et donc c'est, bon, vous n'avez pas payé la place de spectacle, mais j'impose qu'il y ait une participation caritative, un don en fait. Elle impose que quand les gens ils viennent à son concert, fassent un don pour une asso.
Est-ce que par hasard, tu sais pourquoi cette asso, pourquoi elle a choisi cette asso plutôt qu'une autre ou pas ?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Tant pis. Bah, les gens iront chercher.
Les gens iront chercher. Sands, donc comme le sable au pluriel. Alors, quatrième question. Bon, je ne vous présente pas le rappeur Eminem quand même. On salue d'ailleurs Eminem qui nous écoute certainement aujourd'hui.
Toutes les semaines.
Bien sûr. Et donc, il avait la réputation d'avoir des riders avec des demandes assez excentriques. Je précise aussi que quand on parle de rider, on dirait qu'on parle de genre Aretha Franklin, elle a un rider, mais en fait, c'est un rider différent pour chaque tournée, voire même, j'imagine, différent pour chaque salle où ils se produisent, peut-être. Donc, en tout cas, il a une réputation d'avoir des demandes qui sont très excentriques. Mais en 2010, lors de sa tournée, c'est plutôt sage ce qu'il demande, mais il y a une clause qui n'est pas vraiment excentrique, qui est vraiment particulière, c'est une question à choix. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut dans sa loge ? Réponse A, il veut des bonbons suisses de la marque Sougous.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le nom
Sougous, je ne sais pas comment les Suisses le disent. B, il veut des cornichons allemands de la marque Gundelsheim. C, il veut du soda péruvien de la marque Inca Kola.
Et ça, c'était pour un concert en particulier où, t'es ?
Pour sa tournée en 2010. Voilà, c'est un rider qui était plutôt calme comparé à ce qu'il a pu demander. Notamment, j'ai vu qu'il a demandé à un moment une mare ou quelque chose du genre, de faire une espèce de mini-mare ou un étang, quelque chose du genre. Bref, donc, et là, c'était plutôt sage, mais c'est quand même hyper particulier comme demande.
On a des bonbons suisses.
Des bonbons suisses, des cornichons allemands ou un soda péruvien.
Un soda péruvien.
Il n'y a qu'une seule bonne réponse.
C'est qui ? C'est qui déjà le gars ?
Eminem.
Eminem, bien sûr. Eminem !
Slim Shady !
En plus, je suis vachement perturbée par le cliché qu'on a des Américains qui sont si peu ouverts sur le monde. Donc, je suis en mode, un Américain, est-ce qu'il serait plus Suisse, Pérou ou Allemand ? Okay, c'est ce que ça m'amuse, je vais dire Suisse. Les bonbons suisses, allez.
Ok, jus.
Peut-être le soda péruvien.
Donc, soda péruvien, très bien. Bien, vous avez tort, c'est les cornichons. Et j'ai cherché pourquoi et j'ai pas trouvé. Il aime juste ses cornichons, il aime cette marque de cornichons. Gundelsheim, donc, pour les connaisseurs de cornichons. Voilà, c'est les cornichons de Eminem. Il veut des cornichons Gundelsheim dans sa loge.
C'est beau. Voilà. C'est beau.
Alors, cinquième question. Elton John, il demande à avoir deux loges distinctes. Pourquoi ?
Alors, moi là-dessus, j'ai déjà entendu effectivement qu'il y a pas mal d'artistes qui arrivent soit avec un bus ou deux bus supplémentaires, ou quand c'est des tourbus, donc c'est-à-dire des bus dans lesquels les artistes dorment. En fait, c'est souvent une histoire que... Enfin, pour moi, c'est quand tu fais une tournée, tu passes 120 ans avec tes techniciens, tout le temps. Et du coup, en fait, il y a plein d'artistes qui demandent à avoir des loges séparées de leur équipe, parce que quand tu passes deux mois à faire des soirées quasiment tous les jours et tout, et ben, t'as besoin quand même d'avoir un endroit à toi. Donc j'aurais tendance à dire que c'est simplement pour tenir l'énergie sur toute une tournée, qu'il puisse avoir à chaque fois un lieu à lui... qui soit séparé de l'espèce d'ambiance colonie de vacances des techs, quoi.
Ok.
Moi, j'aurais dit un truc comme ça aussi, ouais.
Ok. Eh bien, vous avez tort. En fait, il y a une loge qui est pour lui et il y a une loge pour ses lunettes.
Attends, au pluriel ? Genre ouais. Plusieurs paires de lunettes.
Plusieurs paires de lunettes. Alors j'ai vu aussi en faisant les recherches pour le quiz qu'en fait ça c'était des demandes assez fréquentes d'avoir plusieurs loges et souvent notamment je crois que c'est Maria Carré là je suis pas sûre qui veut une loge pour son dressing parce qu'il y a tellement de fringues et de tenues et de choses comme ouais, ça qu'ils ont besoin de deux loges. Et bah apparemment Elton John il a tellement de lunettes qu'il faut une loge à lunettes. Voilà c'est ce que j'ai trouvé et la loge à lunettes de Elton voilà. Pourtant, des lunettes en plus, c'est petit. Hein.
Bah oui, c'est pour ça, en fait. Je sais pas, genre, tu vois, des robes.
Des costumes aussi.
Tu vois, genre, je me dis sur des grandes artistes féminines comme Beyoncé, Mariah Carey, Rihanna, qui ont aussi potentiellement, genre, 4, 5, 10, enfin, 5 tenues complètes dans le même concert, mais qui par contre, en fait, c'est plusieurs couches de vêtements. Je suis en mode, oui, t'as besoin d'avoir des vêtements qui sont bien alignés, si je puis dire, pour les voir. Par contre, des lunettes, tu peux faire des boîtes qui sont faites pour être organisées, qui se déplient et tout. C'est, j'ai besoin de... Enfin, après cette émission,
on aimerait une photo de la loge de Elton remplie de lunettes, c'est sûr.
Faut savoir combien il en a aussi.
Savoir combien il en a. Après, j'ai vu aussi beaucoup de faits comme ça en faisant les recherches d'artistes qui ont des objets. Il me semble que c'est Van Halen. Lui, il a un garde du corps pour lui et un autre pour ses guitares. Je crois que c'est Van Halen, c'est pas lui, c'est un autre rocker. Mais voilà, donc il y a pas mal de quand on lit comme ça, de choses comme ça, il veut deux loges, un pour son, puis il veut deux gardes du corps, un pour lui, un pour les guitares.
Mais ça veut, enfin, je veux savoir quel a été le trauma, quoi. C'est-à-dire que ce mec s'est fait poursuivre par un stalker qui essayait de voler ses guitares, c'est quoi ?
Il a des guitares très chères qui valent vraiment très cher, uniques et.
D'ailleurs, j'ai vu récemment que il y a Paul McCartney qui a retrouvé une guitare qu'on lui avait volée il y a des années. Et elle a été retrouvée dans un grenier. Et c'est la guitare de Paul McCartney qui s'était fait voler pendant une tournée. Et je crois qu'il l'a récupérée. Ouais. Ou qu'il l'a vendue aux enchères, un truc comme ça. Mais... Ouais.
Incroyable. Waouh, incroyable. Comme quoi, ne jamais désespérer. Quand on a perdu un objet, il peut revenir.
Voilà.
À ce bon Paul, que l'on salue d'ailleurs.
Que l'on salue également, Paul McCartney, si tu nous écoutes. Hein. Dernière question. Alors, quand Pharrell Williams y part en tournée, il demande à ce qu'on lui mette dans sa loge la photo encadrée d'un scientifique célèbre. Mais lequel ? A. Nikola Tesla. B. Alan Turing. C. Carl Sagan.
Au pif, Carl Sagan.
Ok.
Alan Turing, celui qui a inventé un peu l'ordi, quoi. Enfin...
Ouais. Alors, Letty, bonne réponse.
Incroyable.
C'est Carl Sagan. En fait, le musicien est un grand fan de ce scientifique et astronome américain, Carl Sagan. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que quand j'ai vu ce fact, je trouvais ça super, parce que moi, j'aime beaucoup Carl Sagan. Et notamment pour une chose... Et en 1977, la NASA elle a envoyé des sondes spatiales, Voyager 1 et Voyager 2. Et la mission, c'était d'observer et d'étudier les planètes qui sont le plus éloignées de notre système solaire. Donc Jupiter, Saturne notamment. Et si la sonde elle arrivait à aller au-delà, ben, en dehors de notre système solaire même. Et Carl Sagan, donc, c'est un astronome, et il a insisté auprès de la NASA, il a fait du lobbying pendant des années pour demander à ce que quand la sonde... elle est bientôt s'apprêter à sortir de notre système solaire, en fait, se retourne pour prendre une dernière photo de toutes les planètes qu'elle avait visitées avant, de notre système, et donc de la Terre aussi. Et bon, je passe tous les détails, c'était très compliqué, ça a duré des années, parce que c'est pas juste qu'il faut tourner l'appareil photo, ils avaient peur, en fait, que ça endommage la sonde, puisqu'il faudrait qu'elle se retourne vers le Soleil. Et donc, au final, Carl Sagan a vraiment insisté en disant « il n'y a aucun intérêt scientifique à prendre cette photo, mais ça peut être important pour les gens ». Donc je vous invite, si vous n'avez jamais vu cette photo, à aller la voir. Elle s'appelle « Un point bleu pâle » en français. Et c'est le nom d'un livre de Carl Sagan, notamment, avec un texte qui est magnifique. Et en fait, on voit, c'est la taille de 1 pixel. Hein. La photo, elle a été prise à 6,054 milliards de kilomètres. Donc c'est vraiment un espèce de petit pixel, un point bleu. Et par un concours de circonstances, la photo se prend au moment où il y a un rayon du soleil qui passe et donc la Terre est au milieu de la lueur du soleil et ce petit point minuscule. Et voilà, il y a un texte très beau de Carl Sagan qui va avec, qui explique que ce petit point, ça représente tout en fait. Nous, tout ce qui a toujours vécu, tout, et que c'est le seul endroit où on sait qu'il y a de la vie et qu'il faut le préserver.
Et puis c'est beau aussi, je trouve que que pour une fois dans l'histoire de l'humanité où t'as un scientifique qui dit non, là on va faire un truc émotionnel qui a pas forcément d'intérêt scientifique, que le hasard de la nature lui réponde en mode bah du coup on va te mettre un petit projo quand même parce que c'est une belle démarche, tu vois, genre.
Et la Terre apparaît très bleue parce que à ce moment-là c'est je sais plus quelle face qui est tournée vers l'appareil photo, ce qui aurait pas été le cas si ça avait été l'Asie ou l'Afrique où la photo avait été prise un peu plus tard, donc du coup c'est d'autant plus symbolique qu'on est la planète bleue, etc., etc. Et voilà, et puis pour l'histoire, Voyager, elle est toujours en fonctionnement, hein. C'est le premier objet humain qui a été envoyé en dehors de notre système solaire, et la mission continue encore aujourd'hui.
La classe, c'est là où il y a la plaque incompréhensible dessus ? Parce que je crois qu'il y a une... Alors je sais pas si c'est ça, mais genre, je crois que dans les années 70, il me semble, en fait, ils ont envoyé une... Comment on appelle ça ? Ben, une sonde au cas où il y aurait des aliens un jour qui nous captent et pour donner des infos sur nous. Sauf qu'en fait, c'est un dessin d'un homme et d'une femme à poil. Et après, t'as un espèce de diagramme hyper scientifique. En fait, la majorité des humains, tu leur montres cette plaque et tu leur dis « déchiffre la partie scientifique », personne ne sait ce que c'est. Donc du coup, il y a un peu un truc chez les scientifiques de dire « bon, si tes propres gens de ton espèce ne sont pas capables de comprendre tes mathématiques, ça sert à rien d'aller demander à une autre espèce de le faire, quoi. »
Alors non, c'est pas la même chose. Ça, c'est le message de Arecibo. Mm-hmm. C'est un message radio qui a été envoyé. Okay. Et en fait, c'est un message avec des ondes que quand tu le restitues en dessin, ça donne ce que tu dis. Mais en fait, il y a beaucoup d'infos. Il y a le nombre de planètes de notre système solaire. Il y a effectivement le dessin d'un homme, d'une femme. Il y a aussi, je crois, le génome ADN. Enfin, il y a plein d'informations sur la race humaine. Et oui, il y a un joli dessin là, très joli, que je voulais mettre en poster d'ailleurs chez moi. J'aime beaucoup l'espace. Donc,
Eh ben merci Morgane pour ce super quiz. Continuons avec ce que je vous ai préparé. Donc le vrai du faux du vrai. Théorie du complot édition. Donc le jeu, c'est que je vais vous sortir des affirmations, des théories du complot. Et vous allez me dire si c'est vraiment des théories du complot qui existent ou si c'est des élucubrations que j'ai inventées. Première théorie, Adolf Hitler serait mort en 1984 à l'âge de 95 ans. Est-ce que c'est un vrai truc que les gens croient ou pas ?
Tu veux dire si c'est vrai que les gens croient ça ou si ça...
Oui, est-ce que c'est une théorie du complot que j'ai inventée ou est-ce qu'il y a vraiment une communauté qui pense que...
Oui, en Argentine, il serait mort.
Ouais, je crois que... je crois que c'est un truc comme ça. Oui, en Amérique latine, au Brésil, ce serait la théorie en particulier, ce serait qu'il aurait fui en Amérique latine et se serait refait sa vie au Brésil et avant de mourir en 84 à l'âge de 95 ans. Alors je vous le dis, c'est pas une question piège en mode non, les gens croient qu'il est mort à 96 ans. Non, c'est.
Moi, je pense que c'est vrai, mais j'avais entendu sur l'Argentine, moi.
Ok, et toi Morgane, est-ce que tu penses que c'est vrai que
je pense que dans l'absolu oui, parce que comme on n'a jamais retrouvé le corps d'Hitler puisqu'il s'est bien assuré qu'on ne pourrait pas retrouver son corps après sa mort, évidemment qu'il doit y avoir des personnes qui pensent que Hitler n'est pas mort, et puis comme il y a beaucoup d'anciens nazis qui sont partis en Amérique latine, ça paraît solide comme.
Alors, en effet, c'est une théorie solide. Et ce qui est intéressant avec cette théorie, donc c'est comme les théories où il y a des gens qui pensent que Michael Jackson ou Elvis Presley auraient survécu. Et donc, l'idée, c'est qu'Adolf Hitler ne se serait pas réellement suicidé le 30 avril 1945 dans son bunker à Berlin, investi par des troupes russes, mais qu'il aurait fui en Amérique latine. Alors en fait, pour le coup, c'est pas vraiment la faute aux gens s'ils croient à cette théorie, c'est parce qu'en fait, quand Hitler se suicide, et que c'est, comme ils le disent, les Russes qui envahissent leur bunker, en fait, on est en plein début, du coup, de la guerre froide. Et donc, à ce moment-là, tu as les Russes qui choisissent de cacher le fait qu'ils ont retrouvé Hitler mort, parce que ça peut être une information sensible. Et du coup, il a fallu attendre, je crois, la fin de la guerre froide pour se rendre compte qu'en fait, c'est juste les Russes et les Américains, d'ailleurs, qui étaient dans une politique globale de cacher des infos au cas où ça s'arrange. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu une ambiguïté sur la mort d'Hitler, parce que effectivement, pour le coup, on avait des institutions gouvernementales qui nous cachaient le vrai truc. Et donc, en fait, t'as des historiens aujourd'hui qui, encore aujourd'hui, galèrent à expliquer que non, Hitler, il s'est suicidé pour ne pas être pris par les Russes ou par les Américains et qu'on l'a retrouvé et que tout s'est passé comme prévu quoi. Et effectivement, pourquoi les gens pensent que se disent ouais, il est parti en Amérique latine plutôt que en Asie ou je sais pas où, aux États-Unis, c'est parce qu'en fait, effectivement, comme l'Amérique latine dans sa majorité, voire dans sa globalité, est restée neutre dans la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup effectivement de nazis qui ont fui en Amérique latine parce que ça faisait partie des seuls pays qui, en fait, étaient très éloignés de l'histoire de l'Holocauste. Donc voilà. Deuxième théorie du complot, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui croient qu'il y a un trou au pôle Nord qui descend jusqu'au centre de la Terre ?
J'ai jamais entendu ça.
Okay. En fait, c'est terrible parce que dans l'absolu, j'ai envie de dire, il y a tellement de cons que franchement, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent ça. Même si c'est un seul mec sur la planète, donc on ne pourrait pas appeler ça théorie du complot, mais certainement.
Théorie du complot, moi, je parle vraiment de gens...
Ouais, genre, il y a des communautés qui Internet. En parlent entre elles. Oui, il y a des fausses preuves qui tournent avec des photos trafiquées. Ouais.
Tu dirais quoi ?
Moi, j'ai envie de dire non. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait un trou.
Alors, vous avez raison, c'est complètement une théorie que j'ai inventée. Par contre, qui est pas loin d'une vraie théorie du complot, qui serait que la Terre serait creuse et qu'à l'intérieur de la Terre, il y aurait un microcosme avec des espèces différentes, etc., et un monde souterrain. Donc, mais c'est ce qui s'appelle la théorie de la Terre creuse. Mais pas un trou, un espèce de tunnel, comme ça, qui s'enfonce. Ensuite, troisième théorie, les juifs n'existent pas.
Excellent.
C'est toujours drôle.
Ouais, c'est toujours drôle, ouais.
Bah, c'est vrai que particulièrement, il y a énormément, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories hyper bizarres sur les juifs. Il y a plein de gens qui psychotent sur ce peuple et qui le sacralisent et qui en font...
Carrément, on lui dénie son existence, quoi. Ouais. Incroyable. Je sais pas, ça paraît gros, quand même fou, ouais, non, quand même. Non, moi je dirais non.
Moi non plus.
Alors effectivement, c'est complètement faux. Par contre, il y a une croyance, enfin il y a une théorie qui est pas loin, pas sur les juifs, mais il y a des gens qui pensent que la Finlande n'existe pas et que c'est une théorie du complot complet. Qu'on nous fait croire que la Finlande existe, machin, j'avais entendu parler de ça. Mais tu vois, donc je me dis, bon, il y a des gens qui croient que les Finlandais n'existent pas, tu vois, genre je me dis, bon, c'est chaud, hein. Ensuite, la France possède l'objet le plus rond du monde et le garde secrètement dans un caveau.
Le plus rond ?
Le plus rond. L'objet le plus rond.
Qu'est-ce que c'est cet homme ? C'est quoi ? C'est le ballon de 98 ? C'est quoi ? C'est quoi ?
C'est une sphère, comme tu peux te l'imaginer. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ?
Ben, pareil, j'aurais tendance à penser que c'est faux. Mais aussi parce que j'en ai jamais entendu parler, quoi.
C'est comme ça que tu gères ton savoir, en fait. Si Julien n'a pas entendu parler d'un truc, ça ne peut pas être vrai. Genre, c'est la règle du cosmos. Ouais.
Écoute, moi, je vais dire vrai.
C'est complètement vrai. Alors, je vais vous expliquer. Donc, le kilogramme, donc pour nous, c'est un système de mesure. Mais avant d'être un système de mesure, il a fallu que ce soit un objet. Et donc, le kilogramme en lui-même a été défini par le prototype international du kilogramme, qui est un petit cylindre de platine et d'uranium, et d'iridium, pardon, dont le diamètre et la hauteur font environ 4 cm. Il s'agit d'un artefact très important, fabriqué en 1889 et jalousement gardé. Il faut dire qu'en plus d'être l'objet le plus rond du monde, il s'agit de l'artefact qui a permis d'étalonner tous les autres objets du monde. Il n'a été sorti que 3 fois, une fois dans les années 40, puis en 1999, puis en 2014. Il est conservé au Bureau international des poids et mesures à Sèvres et gardé en sécurité dans un caveau sous 3 cloches de verre. Aujourd'hui et depuis 2019, la sphère ne sert plus d'étalon pour le kilogramme, puisque malgré toutes les précautions, la masse s'est modifiée avec le temps et son poids a donc varié. Un comble pour un objet censé étalonner ceux du monde entier. Aujourd'hui, on utilise la constante de Planck pour définir le kilogramme.
Du coup, c'est pas une théorie du complot, c'est vrai, genre.
C'est tout à fait vrai.
Ah oui, d'accord.
C'est tout à fait vrai. C'est simplement que je suppose que les personnes qui ont fabriqué le kilogramme devaient avoir un lien avec la France à un moment donné. Et du coup, juste on conserve. Et comme c'est un truc qui est historique et qui en plus n'intéresse même plus la communauté scientifique, bah du coup, oui, il est sorti 3 fois. C'est un peu un objet secret, mais c'est plus parce que tout le monde s'en fout, quoi. Voilà. Ensuite. La prochaine théorie du complot, ce serait que les puissants de ce monde se droguent au sang des enfants.
Ah ouais, ça c'est complètement vrai, j'ai vu passer ça. Ouais, c'est complètement vrai.
J'ai vu, c'est l'adrénochrome.
Exactement, l'adénochrome.
L'adénochrome, c'est du sang d'enfants qu'on prend sur des enfants de 3 ans. Exposé à la télévision, Gérard Fauré, ancien trafiquant de cocaïne, donc c'est un des chroniqueurs de TPMP, à une heure de grande écoute. Le mythe sur l'adrénochrome se fonde sur les milliers de disparitions d'enfants chaque année. Les complotistes expliquent que s'ils ne reviennent jamais, c'est parce que ces enfants sont enlevés, torturés, puis tués dans des rites sataniques. Selon eux, la torture déclencherait du stress et donc de l'adrénaline chez les enfants, entraînant une production d'adrénochrome, une molécule issue de l'oxydation de l'adrénaline. Cette substance serait prélevée dans le sang des enfants, dans leur cerveau ou d'autres parties du corps, selon les versions. Cette « drogue », entre guillemets, la plus puissante du monde, serait vendue à prix d'or aux puissants.
Voilà, donc il y a vraiment des gens qui croient ça.
Je connais des gens qui croient ça.
Non,
personnellement, des gens de chair et d'os.
Oui, oui, oui. Et je me suis renseigné là-dessus pour. Parce que moi, j'y crois pas du tout, forcément. Et il y a une vidéo Combini qui explique un peu l'origine de cette croyance. Et d'ailleurs, l'origine est un peu antisémite aussi.
Ah bon ?
Oui, parce qu'il y a une époque au Moyen-Âge où on accusait les juifs de faire des rituels sur les enfants.
Oh !
Et du coup, c'est un peu lié à ce truc aussi.
Okay.
Moi, j'ai mis ça en relation avec... J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a des endroits tout à fait minoritaires en Afrique où en fait, les albinos sont persécutés parce que la peau blanche est vue comme un truc spirituel. Et du coup, en fait, tu as des enfants qui sont... c'est pas juste un truc de tu es le démon et on t'exclut de la société. C'est-à-dire qu'ils sont chassés pour leurs os. Comme un truc comme on peut retrouver dans certaines parties d'Asie où ils pensent que la corne des rhinocéros va leur apporter des vertus, etc.
Voilà.
Et les gens pensent que les gens qui croient ça pensent que Céline Dion en fait partie.
Oui, alors oui, pas des gens qui... Alors Céline Dion ne ferait pas partie des gens qui chassent les albinos pour leurs vertus, mais effectivement on croit que Céline Dion prendrait de l'adénochrome.
Céline qu'on embrasse.
Céline qu'on embrasse, peu cher, qui a perdu sa voix, mais qui nous a régalé pendant tant d'années. Prochaine théorie, l'humain a été créé par une IA qui elle-même a été créée par une ancienne génération d'humains qui se serait éteinte. Et qui du coup, l'IA aurait recréé les humains à l'image de ses créateurs originels.
Alors moi je pense que c'est faux, mais par contre, dans le futur, c'est possible.
C'est-à-dire que c'est faux au présent, mais pas faux dans un absolu.
Oui, voilà.
Ouais, voilà.
Selon moi.
Je sais qu'il y a cette théorie qui n'est même pas une théorie du complot, hein, qui est une pensée philosophique de se dire qu'on vit dans la matrice, on vit dans une simulation, parce que de toute façon on n'aurait aucune preuve qui nous prouverait qu'on ne vit pas dans une simulation. Mais est-ce qu'on a été... Non, je pense pas que ce soit vrai.
Absolument pas. C'est une idée de notre ami réalisateur et scénariste Christophe Oliver, qui fait les chroniques ciné avec nous et qui a eu le malheur d'être présent dans la même pièce que moi quand je préparais l'émission. Donc voilà. Par contre, s'il y a des gens que ça intéresse, les espèces de théories sur les IA, je vous conseille vivement d'aller regarder une théorie qui s'appelle la basilique de Rocco, et qui justement est intéressante sur ces sujets-là. Prochaine théorie du complot, est-ce que vous voyez déjà ce que c'est que les chemtrails ? Je ne connais pas la traduction en français. Les chemtrails, ce sont les traînées d'espèces de nuages toxiques blancs que relâchent les avions. Vous voyez, cette traînée blanche. Et donc, en anglais, ça s'appelle les chemtrails, qui veulent dire chem pour chimie et trails pour traîner. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui pensent que les chemtrails sont existantes parce que, en fait, les avions disperseraient une drogue qui nous permettrait, nous, les masses, d'être beaucoup plus dociles pour qu'on puisse mieux nous contrôler?
C'est un grand oui.
Julien, tout à fait.
Et d'ailleurs, en lisant ces théories, moi aussi, je me suis renseignée, comme tu disais tout à l'heure, Julien, sur la question d'avant. Et en fait, c'est même... Moi, je croyais que c'était du carburant. Mais en fait, je crois que c'est de la vapeur d'eau.
Ouais, je crois aussi. Ouais.
Qu'on voit, en fait, ce qu'on voit, les traînées blanches, c'est de la vapeur d'eau, en fait. Donc, c'est même pas du... Mais oui, il y a des gens, tout à fait, qui croient que c'est des produits chimiques. Justement, en me renseignant sur ces chemtrails, etc., parce que je voyais ça sur Internet et tout, les gens qui se montaient la tête. Et en fait, c'est de la vapeur d'eau. Alors, j'ai plus le phénomène exactement de pourquoi il y a cette vapeur d'eau, mais je crois que c'est de la condensation, en fait, tout simplement.
Ah ouais? Parce que moi, j'avais vraiment... Enfin, tu vois, j'ai un peu le réflexe de voir les voitures, tout simplement. Et du coup, en fait, ce qui relâche, c'est quand même des trucs dégueu. Donc, je me suis dit, oui, ça doit être des bouts de carburant et tout. Mais OK, d'accord.
Donc, si c'est de la vapeur d'eau, il n'y a absolument rien de nocif, quoi.
Ah ouais? OK, trop cool. Bah, franchement, merci, parce que c'était une angoisse. Ça participait à mon anxiété écologique. Donc, ça fait un petit point en moins. C'est cool. Ensuite, dernière théorie du complot. Ce sont... Les méduses sont en réalité la sauvegarde de tout le savoir d'une espèce intelligente qui se serait éteinte longtemps avant la naissance de l'humanité. Comme si c'était des disques durs, en fait,
des disques durs, point.
Bah, ça me semble probable que des gens pensent ça, parce que la méduse, c'est un animal hyper ancien. C'était déjà là à l'époque des dinosaures, je crois, c'était même avant.
Bah, ils en ont bien la tête un peu, hein. Mais en soi, c'est un animal hyper étrange, hein. Je trouve que la méduse est plus étrange que l'ornithorynque, hein, par exemple. Morgane, qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense que ça a l'air d'être surtout un scénario d'un film, de quelque chose. J'ai l'impression, plus qu'une théorie du complot que les gens croient, mais...
T'as senti que c'était moi qui l'ai écrit.
J'ai senti que c'était toi, là. J'ai senti une patte de quelque chose de laity.
J'arrive pas à faire des...
Lancer des complots. Hein.
Donc, dans la série Fait étonnant et tout ça, je voulais vous parler de quelque chose qui s'appelle, sur Reddit notamment, et sur les réseaux, les glitches dans la matrice. En fait, alors c'est moi qui vais vous raconter une histoire, c'est tout. En fait, c'est un truc où t'as des gens sur Internet qui commencent à dire « Ah ben en fait, on a l'impression qu'il y a des erreurs de simulation, comme s'il y avait des glitches. » Donc ce qu'on appelle des glitches dans le monde du jeu vidéo, c'est quand il y a une image qui bug ou un gameplay qui bug et que du coup, tu te mets à pouvoir traverser un mur ou alors il y a des pixels qui viennent encombrer ton image. Donc il y a des artistes, par exemple, qui ne travaillent que à partir du glitch et qui en génèrent volontairement pour faire des œuvres d'art. Et puis, tu as toute la culture du speedrun, donc le fait de finir un jeu. C'est une compétition qui consiste à finir un jeu le plus vite possible et qui utilise les glitchs des programmeurs pour pouvoir passer d'un chapitre, sauter un chapitre entier parce qu'il faut sauter et taper dans le mur sur un pixel en particulier, et ça te fait passer. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'histoires sur Reddit, notamment de glitch. Donc, je vais vous en lire une qui est un thème des glitchs qui est assez courant, qui s'appelle « L'ami qui n'a jamais existé ». Et donc, il y a plein de gens qui disent « Pendant que j'étais enfant, j'avais un pote et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas ». Et donc, voilà une de ces histoires. Donc, c'est quelqu'un qui écrit, qui dit « Salut ». Je viens de tomber sur ce site et j'ai pensé partager une histoire que mes amis ont toujours qualifiée de glitch dans la matrice. C'est un dimanche après-midi, mon ami et moi buvons des bières dans l'allée, regardons les gens, etc. Mon copain fume une cigarette et un gars passe devant nous et nous demande s'il peut fumer une clope avec nous. Mon ami accepte et nous l'invitons à s'asseoir avec nous. Je finis par lui offrir une bière et nous entamons une conversation agréable pendant environ une heure. Il nous dit qu'il s'appelle Dizzy et qu'il vient d'emménager avec sa mère de l'autre côté de la rue pour se rapprocher de sa petite amie, qui venait apparemment de perdre son père. Je ne connais pas très bien mes voisins, je n'y pensais pas du tout à l'époque, mais il a mentionné que sa mère s'appelait Rhonda. Il convient de mentionner ici que notre nouvel ami est noir. Dizzy nous dit aussi qu'il est musicien et qu'il possède une batterie. Finalement, une femme noire, plus âgée, se gare dans l'allée de l'autre côté de la rue et Dizzy dit que c'est sa mère. Et il nous remercie pour la conversation et entre. Nous l'avons entendu jouer de la batterie pendant environ une heure. Le week-end prochain, c'est mon anniversaire. Je traverse la rue pour le faire savoir à Dizzy. La porte est ouverte et la porte moustiquaire est fermée. Je sonne à la porte, pas de réponse. Juste un chat assis dans l'escalier. Je sonne encore une fois, rien. Je commence à m'éloigner, mais alors que je me retourne vers l'allée, je remarque un vieux mec blanc, debout, dans le cadre de la porte qui me regarde. Je lui ai demandé si Dizzy était à la maison. Et il m'a répondu que personne de ce nom n'habite là. Je lui ai demandé si Rwanda vivait là-bas. Il a répondu non. Je lui ai demandé s'il avait une batterie. Encore une fois, non. J'avais déjà vu ce type. Il était mon voisin depuis un moment, mais j'ai simplement supposé qu'il avait déménagé lorsque la mère de Dizzy avait emménagé. Je ne les ai jamais revus depuis. Voilà. Ça, c'est un parfait extrait de témoignage qu'on peut voir quand vous tapez « glitch dans la matrice » sur Reddit. Je voulais avoir vos impressions.
Oui, le cerveau nous joue des tours.
Morgane, t'as l'air en pleine réflexion.
Non, mais c'est ce genre d'histoire où, bien sûr que je pense que c'est un exercice de style. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Reddit des histoires en disant « ça m'est arrivé », qui savent très bien que c'est de la fiction. Moi, je pense pas qu'on est sur le récit de quelqu'un qui est psychotique et qui croit premier degré à ce qu'il écrit. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant des histoires comme ça parce qu'on se dit, bah pareil, on peut pas prouver que ce soit vrai ou faux. Et puis même si c'est un ressenti, même si c'est une hallucination, ça reste réel pour la personne qui l'a vécu. En tout cas, on peut pas dire que c'est...
Ça peut être un rêve aussi. Tu peux l'avoir vécu dans le monde du rêve.
Puis à l'inverse, moi, ça m'est arrivé en découvrant ce fil sur Reddit de l'ami qui n'a jamais existé. J'ai repensé à un ami à moi qui s'appelait Hugo, qui était à l'école primaire des Granettes à Aix-en-Provence avec moi. Et moi, je m'en souviens comme d'un copain que j'avais adoré. Et puis, il avait changé d'école. Et en fait, en lisant ça, je me suis rappelé que ça faisait des années que je n'étais pas retombée sur lui dans mes photos de classe que je consulte souvent. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais attends, est-ce que c'est un ami imaginaire et tout? Je suis allée faire des grandes recherches dans la maison de mes parents. Et quel soulagement ça a été de retrouver deux photos de classe, tu vois, de Hugo. Et donc Hugo, je ne me souviens plus de ton nom de famille, mais si tu nous entends, j'espère que tu vas bien.
Et du coup, Hugo, ça le rassura aussi de savoir que Laetitia n'était pas non plus une amie imaginaire.
J'avoue. Ok, pour finir cette émission, je vous propose de faire une énigme de situation. Donc les énigmes de situation, c'est je vous donne une phrase et vous devez retrouver toute l'histoire. Et vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez et moi j'ai le droit de vous répondre uniquement par oui, non ou on s'en fiche, c'est pas pertinent dans le sens où quelle que soit la réponse, ça n'impacte rien. Donc... il faut comprendre aussi que sur les énigmes de situation, c'est vraiment des partis pris très singuliers. Il faut se creuser un peu les méninges. Donc, un homme éteint la lumière, puis va se coucher. Le lendemain, il se lève, allume sa radio, puis il se suicide. Pourquoi ?
Il éteint sa lumière, il va se coucher.
Un homme éteint la lumière, puis va se coucher. Le lendemain, il se lève, il allume sa radio, puis il se suicide. Que s'est-il passé ? Pourquoi il se suicide ?
Moi, je me demande plus pourquoi il allume sa radio.
C'est une bonne question. Rappelle-toi que je peux répondre que par oui ou par non, ou ça sert à rien que je te réponde, quoi, ou c'est pas pertinent.
Est-ce qu'il allume sa radio pour écouter les news ?
Oui.
Est-ce qu'il est surpris par ce qu'il entend ?
Absolument.
Il apprend une nouvelle qui le concerne ?
Oui.
Est-ce qu'il apprend une nouvelle qui concerne aussi sa famille ?
Non, c'est une nouvelle qui ne concerne pas particulièrement sa famille.
Est-ce que c'est une nouvelle qui concerne son travail ?
Oui.
Alors, il faudrait trouver dans quoi il travaille, du coup, j'imagine. Est-ce qu'il travaille dans l'armée ?
Non.
Est-ce qu'il est politicien ?
Non.
Artiste ?
Non.
Alors, pour vous donner un indice sur le, quand même sur le métier qu'il fait, c'est un métier qui est, et c'est pas une grande famille de métiers où il y a des centaines de millions de personnes qui le font. C'est un métier qui est très rare et qui d'ailleurs est en voie de disparition aujourd'hui.
Ok.
Parce que remplacé par une technologie.
Ok.
Donc, je vous rappelle l'énoncé. Un homme éteint la lumière, puis va se coucher. Le lendemain, il se lève, il allume sa radio, puis se suicide. Pourquoi ?
Est-ce qu'il a pas bien fait son travail ?
Absolument.
Et il s'en rend compte en écoutant la radio ?
Tout à fait.
Parce que ça parle de ce qu'il a pas fait, et à cause de ça, il y a eu un accident ?
Exactement.
C'est une histoire vraie ou ?
Non, c'est pas une histoire vraie. Ah,
okay. L'inquiétude ! L'inquiétude d'un coup ! qu'est-ce qu'il a pas fait ? Est-ce qu'il a pas fait quelque chose ? Est-ce qu'il a oublié de faire quelque chose ? Ou est-ce qu'il a pas pensé à faire quelque chose ? Est-ce qu'il a mal fait quelque chose ?
Les deux, en fait. Les deux, il a mal fait quelque chose en oubliant.
Je sais, je l'ai.
Vas-y.
Il est gardien de phare.
Tout à fait.
Et il a éteint la lumière.
Exactement.
Du phare.
Et du coup, quand il se réveille le matin, il y a un bateau qui s'est planté. Et du coup, il est rongé de remords et il se suicide.
Excellent.
Voilà, vous venez de découvrir le monde merveilleux des énigmes de situation. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir fait cette émission avec moi. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour plus de quiz ou plus de ciné. Bisous tout le monde.
Bisous.
Bisous.